Jean Le Cam, bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de me recevoir chez vous, à côté de Quimper. Nous sommes chez vous.
Merci à vous d'être venu si loin.
Et non, nous sommes voisins, n'est-ce pas?
D'accord.
Paris-Quimper, c'est à côté.
C'est sûr.
Alors, je voudrais commencer, Jean, par une citation du poète Khalil Gibran. Et voilà ce qu'il dit, notre ami. Je suis voyageur et navigateur, et tous les jours je découvre un nouveau continent dans les profondeurs de mon âme.
Oh, c'est joli.
Jean Le Cam, et vous, qui êtes-vous?
Qui je suis? Moi je suis, je suis un navigateur, constructeur, technicien, alors après, de temps en temps. Peut-être philosophe, on ne sait jamais.
Oui. Oui, il n'est jamais trop tard. Dès notre naissance, nous sommes philosophes.
Bien sûr, bien sûr. Tout le monde est philosophe.
Exactement. Quelle est votre plus belle qualité?
Ah, ça, c'est difficile.
Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, pour vous-même.
Quelle est ma plus belle qualité? Oh, je pense que je suis assez honnête.
C'est une très belle qualité.
Enfin, tout au moins, je l'espère.
Oui. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous donner les grandes lignes de votre carrière professionnelle?
Oh là là, alors là, moi j'ai commencé à naviguer à l'âge de 5 ans. Après, donc, j'ai fait du dériveur dans les premières années. Après, du bateau, l'Armania familiale, qui s'appelait Mervan. Et puis là, on a commencé à faire de la compétition en habitable. C'est l'âge de 12 ans, 13 ans, voilà, jusqu'à 20 ans. Après, j'ai fait pas mal de cours du Figaro.
D'accord, oui.
Donc j'en ai fait 16. Après, on a monté, j'ai fait le Tour du Monde avec Eric Tabarly en 81. On a monté le chantier CDK, un chantier de construction de bateaux en composite. Oui. Et en parallèle de ça, il y a eu les circuits de Formule 40, et on passe par l'hydroptère, et encore du Figaro, du gros catamaran avec Frédéric Colt à Michon, avec, une carrière plus orientée sur du 60 pieds multicoque à l'époque, et puis pour arriver aux bateaux IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe.
Vous venez de dire que vous avez fait en effet le tour du monde. Quel regard avez-vous sur le monde?
Ah, le monde, oui. La Terre.
Sur la, oui.
Oui, parce que la Terre, c'est une toute petite partie. Enfin, oui. Donc, c'est tout petit.
C'est tout petit.
C'est tout petit, la Terre. À chaque fois, je me fais cette réflexion-là, parce que nous, on avance en fait à la vitesse d'un soleil.
C'est ça.
Et on met 80 jours pour faire le tour du monde, si on schématise. Donc 80 jours pour faire le tour du monde à la vitesse d'un solex. En plus de ça, on descend, nous, puisqu'on part des Sables d'Olonne, on descend sud pour contourner, on va dire, le continent africain. Ensuite, on va vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour arriver au Cap Horn. Et on remonte, donc c'est un trajet en plus qui est beaucoup plus long que si on faisait juste la boucle du tour du monde. Donc oui. Ouais, c'est vrai que la Terre est petite.
D'accord. Alors je vais vous poser d'autres questions sur vos tours du monde, en tout cas sur toutes les périples que vous avez fait. Mais c'est dans le cercle d'anthropologie de venir pour agir, donc la connaissance de l'humain. Et Baudelaire affirme que la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Est-ce que Jean Le Cam, quand vous êtes en mer...
Je contemple mon âme.
Vous contemplez votre âme. Est-ce que la mer est un miroir pour vous?
C'est une belle phrase, hein, parce qu'on sait que on dit toujours, avec la mer, on ne triche pas.
Oui. Comment l'expliquer, cette phrase? Parce qu'on l'entend, mais...
On l'entend, mais parce que je pense que la mer est un élément où tu vas avec, où tu ne vas pas contre. Si tu essayes d'aller contre, c'est elle qui te rattrape. Elle aura le dernier mot.
Ça, c'est une question tout à l'heure, parce que vous m'avez un peu devancé, mais vous allez voir que je vais revenir à cette question. Alors, Jean Le Cam, vous avez la mer et la philosophie ont des points communs. À votre avis, lesquels Avant de vous dire lesquels, à votre avis, lesquels?
Bah, on dit que tout à chacun, on est tous des philosophes, quelque
Oui,
part.
oui.
Donc, forcément, les quels points communs qu'il y a entre
Entre la
la
mer et
mer
la
et la
philosophie.
philosophie, c'est-à-dire que bah, la mer, elle te renvoie à toi-même. Donc, forcément, elle te corrige dans ton esprit. Elle corrige ton esprit. Parce que c'est une espèce de dire la mer est quelque chose qui t'empêche d'aller sur des choses qui sont, je dirais, qui te recentrent sur les vraies valeurs, on va dire. Et si tu t'en échappes, elle te ramène quelque part. C'est comme une espèce de couloir qui
Oui.
guide ton esprit, en fait, et qui évite que tu partes dans des délires et dans des choses qui ne sont pas concrètes. Je pense que la mer a cette faculté-là.
Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites,
Et
oui.
c'est ce pourquoi on dit toujours que la mer te ramène et que la mer aura le dernier mot.
Oui, c'est ça.
Et il faut pas. C'est pour ça aussi que moi j'ai un petit peu de superstition quand je passe l'équateur, par exemple,
Oui.
où on fait une offrande à Neptune.
Tout à fait.
Alors moi je dis ça parce que je le fais, parce que je prends pas de risques inutiles, on va dire. Mais surtout au dernier Vendée Globe, quand je suis remonté, il fallait que j'arrive. Alors là, pour le coup, déjà Neptune m'avait
C'est ça.
permis
Mais
de
oui.
traverser l'océan Indien et l'océan Pacifique, une partie de l'Atlantique
C'est
Sud.
ça, oui.
Et donc après, quand on passe l'équateur, forcément, on se dit, faut pas négliger de faire une offrande à Neptune, parce que voilà, on ne sait jamais. C'est
Je crois que
peut-être
c'était une
ça qui
bonne
va nous
bouteille de
faire.
vin, non? C'était.
Voilà, c'est ça.
Mais en tout cas, ça vous a porté chance. Et
Exactement.
oui,
Donc
ça
c'est
vous
pour
a.
ça que le prochain coup, c'est sûr
C'est
que
sûr.
on va pas l'oublier.
Alors oui, alors concernant les points communs entre la philosophie et la mer, en préparant cette interview, j'en ai trouvé quelques-uns. Et alors, la philosophie est née sous le signe de l'eau, sur les rivages de la mer Égée. Et la mer est une sagesse qui stimule la pensée, une libération qui libère du narcissisme. À l'image de l'océan, la philosophie pulvérise les préjugés et le conformisme. Tout simplement, l'eau ne soigne pas seulement nos corps, elle efface nos angoisses, elle a un pouvoir de purification. Êtes-vous d'accord, Jean, avec ce pouvoir de purification? Autrement dit, ma question est la suivante. Pour vous, qui êtes un très grand navigateur, quelle est la force de l'eau?
Bah déjà, le corps humain, il est, je ne sais plus à combien de pourcents, on est fait d'eau.
Oui, je ne sais pas moi non plus, donc.
Mais je crois que je sais
Mais.
pas les proportions, mais c'est
Oui,
énorme.
oui,
Et donc, on dit toujours, l'eau, c'est la vie.
oui.
Et ça, c'est pas neutre. C'est-à-dire que, en gros, on est en train de dire que l'eau, purifie l'esprit.
Tout à fait, c'est ça.
C'est ça, si je fais une synthèse
Tout à fait.
de ces paroles. Oui, ben ça revient au chapitre d'avant, quelque part,
C'est ça.
l'eau, comme nous, on est fait d'eau. Il faut savoir que l'eau, on peut ne pas manger pendant une semaine, pendant 15 jours. On ne peut pas ne pas boire
C'est ça. Oui.
pendant une semaine. Si tu bois pas pendant une semaine, tu perds ton esprit.
Tout à fait.
S'évade. Et ça, c'est très dangereux parce que je me suis retrouvé dans des situations où justement on pouvait manquer d'eau à boire.
Ah, c'est quand même le grand paradoxe. En étant sur l'eau, vous manquez d'eau.
Ouais, c'est de l'eau salée.
Oui,
Donc on a des
c'est ça.
désalinisateurs, etc. Et là, tu te dis que si tu ne bois pas pendant 4-5 jours, ça va devenir catastrophique. Et la problématique, c'est que tu perds tes facultés intellectuelles.
En ne
Alors
buvant
c'est
pas, oui,
très
c'est ça.
dangereux parce qu'à partir du moment où tu commences à partir, que ton esprit ne maîtrise plus
C'est ça.
ton esprit, là pour le coup, ça peut partir en dérive et puis là, c'est une vraie crainte, une vraie. C'est comme un petit peu le manque de sommeil, où
Oui.
on dit toujours, si tu es dans l'excès de ne pas dormir, à un moment, moins tu vas dormir et moins tu pourras te reposer. Et je me suis retrouvé aussi dans ces situations qui sont des situations complètement qui font peur, parce que c'est un cercle vicieux.
C'est ça, c'est une spirale infernale, quoi,
Et
ouais.
voilà, pour en revenir à l'eau et l'esprit, bah, ça, c'en est
Oui.
une réalité physique, on va dire.
Tout à fait. Donc le pouvoir de l'eau est vraiment indispensable.
Mais on le voit d'ailleurs dans toutes les villes. Une ville, c'est toujours implantée par rapport à une rivière, par rapport à de l'eau.
Oui. Ouais,
Et ça, c'est des facteurs géographiques dans le monde où les anciens implantaient toujours des villes ou des cités au bord
Ouais, c'est ça.
d'une rivière. C'est pas
Oui.
par hasard.
Oui.
C'est pour ça que l'eau est un vrai moteur pour l'être humain.
Pour l'être humain.
Et pour les animaux en général,
Oui, pour tous les êtres
pour tous
vivants.
les êtres vivants.
Oui. J'aurais dû vous poser une question tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que on a bifurqué sur une autre réflexion, mais quelle est pour vous la définition du navigateur? Vous êtes un navigateur, vous êtes un skipper. Quelle définition donnez-vous à ce...
Bah, navigateur, c'est celui qui navigue sur l'eau, hein, sur la mer. On peut naviguer aussi sur les lacs. Hein.
C'est ça. Oui.
Donc c'est navigateur, c'est la. Voilà, ça date Christophe Colomb, toute cette histoire qui a été où le monde a été découvert
C'est ça.
par des bateaux sur l'eau à une certaine époque. Aujourd'hui, on sait à peu près que la Terre est ronde.
Oui.
Il y a encore des détracteurs du
C'est ce que
sujet.
j'allais dire, oui.
C'est ça. Bon, moi, je peux dire que la Terre, elle est ronde, c'est sûr.
C'est ça.
Donc,
Vous l'avez vu,
voilà, bah oui,
vous
c'est
l'avez
sûr que
vécu, vous
je
l'avez.
suis pas tombé dans
C'est ça.
l'au-delà. Quand on parle des Sables d'Olonne, quand on revient aux Sables d'Olonne, bon, on est tombé nulle part, dans un
Oui,
trou
oui.
imaginaire.
Moi, je me suis toujours posé la question en suivant tous vos. À la fois le Vendée Globe, le Tour du Monde, etc. Vous avez vécu des grands moments de difficulté. En 2009, vous avez chaviré, vous avez. Vincent Riou est venu vous sauver. Dans ces moments de détresse, quelle est la place, comment vivez-vous cette solitude? Est-ce que vous êtes seul face à vous-même? Est-ce que vous êtes seul face au monde? Finalement, quelle est la place de la solitude en tant que navigateur?
Je pense pas que, enfin, pour ma part, hein, la partie solitude, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui est. Je dis toujours qu'on peut être seul dans une foule. Hein. Je ne galvaude pas ces mots de solitude ou comme la peur ou la solitude d'ailleurs. Non, là, quand on a des problèmes comme ça, on est forcément. On est face à ses émotions, forcément, puisque là, tu passes du désespoir au bonheur total. Donc ce contraste, il est énorme.
C'est ça, oui.
Alors, si on prend l'exemple de Kevin Escoffier, où je ne le retrouve pas, et là, c'est comme je dis, c'est la misère, c'est-à-dire c'est la misère. La misère se traduit pour une misère, je dirais. Et donc là, tu pleures. Et donc tu pleures, donc voilà. Et ça, c'est. Et je me suis aperçu sur le dernier Vendée Globe que pleurer était un exutoire. Ça permet, on a été doté de ces larmes et de cette situation d'émotion intense, à la fois dans la position dans laquelle on est, qui est la détresse, le désespoir, la misère, etc. Et à la fois dans le bonheur et dans l'extase et dans
Oui.
voilà, donc, et forcément, quand je suis revenu, je me suis dit, purée, jamais tu vas, un enfant qui pleure, jamais tu vas le bannir parce qu'il pleure, parce que quelque part, c'est qu'il y a une détresse, c'est qu'il y a une émotion qui se traduit par des larmes, par une situation de l'être humain qui est dans une situation qu'il ne maîtrise pas quelque part, hein, mm-hmm. qui lui fait un peu, peut-être un peu peur, peut-être. Et donc ça se traduit comme ça. Maintenant, la solitude n'est pas, pour ma part, n'est pas d'actualité dans des moments pareils.
Mais vous êtes solitaire de nature ?
Non.
Non ? Non. D'accord. Allez. Et alors, quelle est cette envie de partir en solitaire, faire le tour du monde en solitaire ?
Parce que c'est une compétition, parce que le Vendée Globe est en solitaire, donc c'est les règles déjà de la course, et que, quelque part, c'est vrai que tu es face à toi-même.
Voilà, c'est ça.
Et qu'il ne faut rien oublier. C'est-à-dire que tu ne peux pas... je prends le problème de l'eau, qui est un problème essentiel. Nous, on fabrique l'eau douce avec l'eau de mer, hein, des salinisateurs. Ça, c'est des priorités, mais tu ne peux pas, s'il te manque un truc, tu ne peux pas sortir de ton bateau, prendre ta voiture et aller au supermarché.
C'est donc, sûr, oui,
c'est si tu as un problème, c'est à toi de le régler, puisque tu es tout seul.
Oui.
Donc, c'est une situation qui est assez particulière, on va dire.
Il y a tout un entraînement, enfin, un entraînement psychologique quand même. Vous avez tout un accompagnement, peut-être, non ?
Non, pour ma part, non. Pas trop. Non.
Vous arrivez à faire des micro-siestes ? Parce qu'il faut quand même sommeil.
On essaye. Alors, le problème, c'est surtout de dormir. Le problème n'est pas de ne pas dormir. Le problème, pour moi, il est de pouvoir se reposer. Et se reposer, c'est détendre, d'abord. Dormir, c'est bon. C'est sûr que... Et le problème, c'est de dormir. Parce qu'on a la tête tout le temps, surtout le dernier Vendée Globe, où tu as la tête en permanence encombrée de choses et d'autres, comme des gens à terre aussi de long. Hein.
Oui.
Et à ce moment-là, tu n'arrives plus à te détendre et te reposer vraiment. Et ça c'est un problème.
Et alors la nuit ? Moi, je me suis toujours posé la question, quelle est la force de la nuit en tant que navigateur ? Parce que là, c'est pour coup, vous êtes complètement dans le bruit des vagues, vous ne voyez pas grand-chose.
On voit rien.
On voit rien du tout. Et comment vivez-vous cela ? Pour ça que je reviens sur cette solitude, mais avant que vous répondiez, regardez la définition de l'écrivaine actuelle Joëlle Laurencin, qui va définir la solitude de la manière suivante, et je vous demanderai de réagir à cette définition. La solitude est un bien-être essentiel afin d'entrer en connexion avec son soi profond. Il règne alors un silence d'apaisement et de quiétude d'une âme libre ayant accepté ses parts d'ombre et de lumière. Est-ce que cette définition de la solitude, en pleine nuit, vous la vivez ou que se passe-t-il vraiment ?
Non, moi je suis... Je pense que la solitude, c'est quelque chose de plus profond que ça. Enfin, c'est quelque chose qui peut tendre à une détresse.
D'accord, oui.
Et donc là, ce qui est exposé là, c'est qu'en fait, la solitude te renvoie à toi-même quelque part.
C'est ça.
Or, je ne suis pas certain que être seul physiquement soit le seul moyen qu'on ait de s'observer soi-même quelque part.
Oui.
C'est sûr que là, sur un Vendée Globe, on est à la fois tout seul et on est à la fois dans un milieu qui est l'eau.
C'est ça.
Pour en revenir aux deux phrases. Donc, on conjugue ces deux éléments. Je dirais seul sur le bateau, mais on est en compétition, donc on est forcément dans un cadre très surveillé. On connaît les vitesses des autres bateaux, etc. On est quand même en communication avec la Terre assez régulièrement. Donc, au final, on n'est pas isolé totalement.
D'accord, oui.
On n'est pas isolé. Donc, mais bon, c'est sûr que tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a, notre quotidien, il est forcément baigné par... on est obligé de se débrouiller tout seul et on est dans un milieu qui est de l'eau. Donc, effectivement, on va dire ça...
C'est ça, oui.
Et ça donne des repères qui sont différents de ce qu'on a l'habitude, on va dire.
Oui. Mais alors, pour revenir à ma question de la nuit, est-ce que la nuit, vous ne voyez rien, mais est-ce que finalement, c'est le fait de ne rien voir à l'extérieur qui vous permet de voir votre intériorité, qui vous êtes ?
Non.
Non.
Moi, je dis toujours, La nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Et la nuit, en fait, il y a des fois, c'est quelque chose de bénéfique parce que la nuit, tu vois pas quand il y a les grosses vagues, etc.
Mais tu les entends.
Tu les entends, mais
Et tu les imagines quand même.
tu les imagines, mais tu les vois pas au réel. Et des fois, dans des mers assez grosses, etc., peut-être qu'il vaut mieux pas les voir.
C'est ça.
Et c'est comme je dis toujours aussi, quand tu mets ton pilote automatique, moi je dis toujours, mais lui, le pilote automatique, lui, il n'a pas peur. Tu fais des fois, tu sais, dans des
Oui.
situations un peu extrêmes, tu appuies sur on pour mettre le pilote, puis là tu dis adieu vat. Mais au moins, lui, quand tu lui dis faire plus 10 degrés, il va faire plus 10, mais il n'a pas
Oui.
peur, il n'a pas de. Il a pas cette, il a pas de sensation, etc. Donc, dans certaines conditions, c'est quand même assez confortable.
C'est confortable. Alors plusieurs questions dans ce que vous venez de dire. Vous mettez le pilote automatique. Voilà, vous appuyez sur le bouton. Quelle confiance avez-vous en la technique? Parce que c'est vraiment une confiance aveugle ou je ne sais pas.
Bah, la confiance, c'est quelque chose de primordial. Et la confiance s'acquiert avec le temps, forcément.
C'est vrai, oui.
Parce que c'est le temps qui te donne la confiance. Et avoir confiance en ton matériel, ça veut dire que tu l'as déjà maîtrisé, tu l'as déjà validé sur du temps. Et à partir du moment où tu as validé quelque chose sur le temps, la confiance s'installe.
Et oui.
Et ça, c'est essentiel.
Mais que veut dire faire confiance alors? Parce que...
Faire confiance, ça veut dire que quand tu appuies sur on du pilote automatique, tu n'as pas d'état d'âme. C'est-à-dire que tous les problèmes sont réglés, tu as évacué ton esprit de tout ce qui pourrait être périphérique et qui pourrait te dire, oui, mais est-ce qu'il va marcher ce coup-là? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Qui sont des choses négatives, forcément. Et avec la confiance que tu peux avoir, par exemple, si on prend l'exemple du pilote, eh ben, cette confiance va permettre que tu sois serein quand tu appuies
Oui,
sur on.
mais l'êtes-vous vraiment? Parce qu'il y a quand même une part d'inconnu, d'imprévisible.
Il y a toujours cette part d'inconnu et d'imprévisible, heureusement, parce que sinon. Mais cette part d'imprévisible, tout au moins sur la technique, il faut essayer de la minimiser au
Oui,
maximum,
c'est ça. Oui,
c'est sûr,
oui.
pour que la confiance s'installe.
Et vous avez beaucoup plus confiance en mettant votre... Parce que le pilote automatique, vous le mettez la nuit ou
Tout le temps.
tout le temps?
On est tout le temps sous pilote.
Et la nuit, il n'y a pas une certaine... Parce que je repose quand même ma question sur la nuit avec l'idée de l'angoisse et de la peur. Vous parliez tout à l'heure des vagues. Vous avez évoqué lorsque vous êtes allé sauver Kevin Escoffier, là, au dernier Vendée Globe, des vagues de 5 mètres, etc. Cette peur, cette angoisse que vous avez eue, n'a-t-elle pas été aussi. Ne fait-elle pas partie je dirais, de la vie d'un navigateur et finalement, vous vivez avec?
Ah bah c'est sûr, à nous naviguer la nuit, de toute façon il y a de la nuit, voilà, 50% de la journée, on va dire en moyenne, il y a la nuit. Bon, il faut savoir quand même que c'est la nuit qui m'a permis de retrouver Kevin, avec son petit feu
C'est ça, eh
sur le
oui.
radeau.
Eh oui.
Alors que dans l'esprit de tout le monde, on allait arrêter les recherches la nuit.
Et c'est la nuit qui... Eh oui.
Comme quoi, tous les a priori qu'on peut avoir en tant qu'être humain, etc., parce qu'on se dit, et là c'est un très bel exemple, c'est que on va arrêter les recherches la nuit et on recommencera demain matin. Et au final, c'est la nuit qui a fait que
Vous
j'ai
avez...
pu retrouver Kevin
Kevin,
par rapport à une petite lumière, ce qui était sur son radeau de survie, et forcément, cette lumière-là, le jour, je ne l'aurais pas vue.
oui, c'est ça.
Comme quoi, l'imaginaire n'est pas toujours, il faut jamais renoncer. En fait.
Jamais renoncer. Et quand vous, vous êtes parti rechercher Kevin, que s'est-il passé dans votre tête? Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais pas le retrouver? Est-ce que finalement votre vulnérabilité humaine?
Ah bah c'est sûr que nous en termes d'humains, on ne peut réagir que par rapport aux nouvelles technologies qui sont là, les GPS, les positionnements. Sans positionnement, latitude, longitude, trouver Kevin, ça aurait été impossible.
Impossible,
ouais. Impossible.
Donc c'était un soulagement. Parce qu'on sent, mais même à travers vous, à travers votre visage, à travers votre personnalité, on sent que l'humain, pour vous, a une place importante. Quelle définition de l'humain donnez-vous? Qu'est-ce qu'un humain pour vous? Qu'est-ce qu'un homme?
Qu'est-ce qu'un humain? Un humain, c'est un animal. Avec deux jambes, deux bras, une tête, des yeux, un nez et tout le reste.
C'est une belle définition.
Ce n'est qu'un animal.
C'est un animal politique, pour reprendre Aristote. C'est-à-dire un animal qui pense.
C'est un animal qui pense. Et je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas du tout certain, mais je suis quasiment sûr du contraire, que les autres races d'animaux ne pensent pas.
D'accord. Pour vous, l'animal ne pense pas.
Ah si,
voilà.
L'animal pense.
C'est ça.
Mais que ce soit un chien, que ce soit...
Les poissons pensent.
Bien évidemment.
Vous les avez vus penser? Non mais comment vous l'expliquez? C'est intéressant ça.
Mais évidemment qu'ils pensent, forcément. Enfin, nous on est complètement, je dirais, l'être humain, il a toujours l'impression qu'il est extraordinaire, etc. Quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire à la planète... il n'est pas si extraordinaire que ça,
ouais,
quand même.
Ouais,
hein.
C'est ça, ouais.
Donc, voilà, l'être humain, il est toujours, il a une image de lui-même par rapport aux animaux qui est incroyable. Alors que, par exemple, si je reprends les baleines, nous, on va dans leur milieu. Le milieu marin est quand même le milieu des baleines. Nous, on est des intrus dans ce domaine de la mer. Donc, on va chez eux. Donc, il faut respecter aussi le chez les autres, on va dire.
Et en parlant de respecter chez les autres, vous venez de me faire une belle transition sur l'écologie. Quel regard avez-vous en tant que navigateur sur, finalement, toutes ces saletés qui sont dans la mer, qui sont...
Le regard que j'ai, il est je dirais qu'au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a eu des progrès. Enfin, il y a une sensibilité et une éducation qui date maintenant depuis 30-40 ans, hein, qui porte ses fruits au niveau de l'Europe. Maintenant, c'est vrai que au niveau mondial, quand un pays européen veut se débarrasser de déchets qu'il ne veut pas voir ou exploiter des mines diverses et variées qui ne seraient pas, qui seraient pas politiquement correctes, on va dire, dans son pays, eh ben, on va déplacer le sujet et puis on va aller chez les autres. Donc,
oui.
Donc ça, c'est un petit peu quand même, c'est quand même très très embêtant. Mais il se fait que l'éducation qu'on a eu la chance d'avoir, nous en Europe, quand même porte ses fruits au niveau tout au moins des détritus qu'on peut trouver sur les chemins des bateaux marchands, donc qui sont les grandes routes maritimes entre, on va dire, les États-Unis, l'URSS. On va dire la sortie de la Manche avec la pointe de la Bretagne qui va distribuer le Cap Finistère et à partir de là va distribuer des grandes routes commerciales qui sont le Brésil, la Méditerranée, l'Afrique du Sud. Je trouve qu'on a fait des progrès à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres problématiques. Une bonne prise de conscience en ce moment, je pense, qui fait quand même plaisir, quoi.
Oui, heureusement.
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 Mais comme il y a une phrase que j'aime bien, c'est que qui m'a toujours marqué à ce niveau-là, c'est que L'homme a besoin de la planète, mais la planète n'a pas besoin de l'homme.
C'est-à-dire, pourquoi la planète n'a pas besoin de l'homme?
Bah, la planète n'a pas besoin de l'être humain. Et il y avait, c'était à la COP21, je crois, où il y avait un petit film comme ça qui était un peu le symbole de cette organisation, où tu avais la race de l'homme disparaissait, et donc tu avais en accéléré la nature qui prenait le dessus. Et c'était extraordinaire, c'est-à-dire les bâtiments, etc. Tu voyais les arbres qui reprenaient leurs droits, etc. Et j'ai trouvé cette phrase, elle est très juste, c'est-à-dire que si l'être humain disparaît, et ben la nature, la planète n'a pas besoin de l'être humain.
La planète continuera.
Bien sûr, ouais. Forcément. Donc, c'est pour ça que l'homme a besoin de la planète, mais la planète n'a pas besoin de l'homme. Alors il y avait une chose extraordinaire dont je me suis aperçu, c'était pendant cette période du Covid, qui était quand même un moment très très particulier dans notre existence, notre petite existence on va dire, c'est que quand il n'y avait plus personne qui était dans la rue, etc., les oiseaux, quand je descendais en voiture, les oiseaux restaient sur la route.
C'est ça.
Et c'était incroyable, cette rapidité en 3-4 mois, que la modification de l'attitude de l'homme, tout de suite, a des influences sur la nature, sur les autres animaux d'autres espèces que l'être humain.
La nature a repris ses droits.
Ah oui, complètement. Et on a vu d'ailleurs, même sur Paris, etc., des schémas. Et ça, je pense que c'est des vraies valeurs, parce que c'est des choses qu'on a vues, qu'on a vérifiées. Et que voilà.
Oui. Jean, l'interview va bientôt s'achever, malheureusement. Encore deux questions. Vous allez commencer de nouvelles aventures, vous avez d'autres projets, des grands projets. Vous cherchez des sponsors. Quels sponsors cherchez-vous et de quoi avez-vous besoin, concrètement?
Ah bah nous, on est sur...
Pour toutes les personnes qui vous écoutent.
Sur un nouveau projet, là, pour le Vendée Globe 2024, donc sur un nouveau bateau. Un nouveau bateau qui va être un bateau qu'on veut simple. Forcément qu'on veut accessible et donc voilà, on est en train de travailler sur ce projet là et forcément on va chercher des moyens de financer ce projet, cette histoire, parce que on se détache un peu de ce qui se passe en ce moment, on prend une voie différente, quelque chose de différent, de plus accessible, de plus qui va donner de l'espoir, je pense, aux jeunes aussi, parce que quand on est plus raisonnable, et plus d'entraînement, plus de navigation, et on pense efficacité aussi, forcément.
Mais alors pour vous retrouver et pour vous envoyer les dons, sur quel lien, sur quel site on peut vous joindre?
Alors pour le moment, on cherche des partenaires, je dirais, des sponsors principaux.
Oui.
Forcément.
Les grandes entreprises.
Voilà,
d'accord. D'accord. Et donc pour vous joindre, ils vont sur votre site.
Voilà, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Et Jean-Claude, une dernière question. Vous l'avez évoqué à l'instant. Devenir pour agir est un cercle de pensée destiné à la jeunesse, à tous les jeunes aujourd'hui qui vous regardent. Quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir?
Oh ben, je pense qu'il faut rester soi-même déjà. Déjà croire en soi. Je pense que ça, c'est un des principaux moteurs du devenir. Et forcément, comme je dis, qui va très bien dans cette philosophie, c'est à trop en dire fait rire, à bien faire fait taire. Et donc, forcément, il faut croire en soi, mais il faut faire les choses.
Il faut faire les choses.
Il faut faire. Voilà.
Les amis, notre ami Jean vient de vous inviter à faire les choses, alors faisons les choses, mais surtout continuons à suivre Jean, aidons-le. Si vos parents ou vos proches ont des grandes entreprises, venez aider Jean pour ses futurs projets. Cher Jean, merci de m'avoir
oui,
reçu.
Oui, surtout une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est Yes Lucas.
Yes, we can. Exactement. Merci Jean de m'avoir reçu. Et bon vent, si je puis dire. Je voudrais terminer par une citation du grand philosophe chinois Confucius, qui vous caractérise, je trouve. Elle est la suivante. Confucius affirme « Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel. » Jean, vous êtes cet homme rare. Merci d'être qui vous êtes.
Bah,
vraiment
merci.
Et bon vent à vous. Tous mes voeux de succès pour vos projets.
Merci à vous et bonne journée.
Merci.